La semaine de la pop philosophie, saison 5, du 21 au 26 octobre à Marseille. 13h30. Rendez-vous en direct sur les 3-8, la playlist des philosophes. Tendez l'oreille sur Radio Grenouille.
Chouette, chouette. Un direct. Le batracien sort de sa mare et vous retrouve en ville. Radio Grenouille, en direct. En direct. 88.8 FM.
Vous écoutez Radio Grenouille, émission spéciale intitulée « La playlist des philosophes ». En fait, c'est un titre que nous avons volé à Marianne Chaillant, philosophe, qui, dans le cadre de la semaine de la pop philosophie, propose donc une intervention qui s'intitule « La playlist ». Des philosophes. Marianne Chaillant est avec nous dans les studios de Radio Grenouille. Bonjour Marianne.
Bonjour Emmanuel.
J'espère que vous nous en voulez pas de vous avoir volé ainsi le titre de votre conférence.
Faut voir.
Playlist des philosophes, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est une conférence que je vais faire demain au Centre de Poésie à la Vieille Charité. Et je vais me proposer d'établir la playlist qui aurait été celle de nos grands philosophes s'ils avaient eu un MP3 ou un iPod. Quelles seraient les chansons qu'ils auraient mises dans leur iPod pour pouvoir les écouter ?
Alors Marianne Chaillant, c'est pas n'importe quelle playlist, c'est les chansons populaires. Je crois que d'ailleurs vous avez une affection particulière à la culture populaire puisque vous allez sortir tout prochainement un livre qui s'intitule Harry Potter à l'école de la philosophie, ce sera aux éditions Ellipse.
Il est déjà sorti.
Il est déjà sorti.
Le 18 octobre.
Est-ce que c'est pour vous cet amour pour la culture populaire ?
Bah oui, je le partage avec de nombreuses personnes et j'essaie de mettre au service de cette culture populaire la petite culture philosophique que j'ai acquise pendant mes études pour montrer que ces objets qu'on associe souvent à des objets de culture de moindre consistance possèdent en réalité une dimension philosophique.
Alors vous êtes venu avec une petite playlist justement. Je crois qu'on a choisi trois morceaux. Lesquels déjà nous avons choisi ?
On a choisi Stromae. Deux morceaux d'ailleurs de Stromae, Formidable d'abord, et Alors on danse, qui était son premier tube. Et il me semble qu'ensuite on a gardé Alain Souchon et Damien Saez.
Et nous verrons comment nous remonterons à certains philosophes, dont par exemple Schopenhauer, Pascal et
Heidegger.
Et Heidegger.
Voilà.
Avec nous également dans les studios, Boyan Mantchev. Bonjour Boyan Mantchev.
Bonjour Emmanuel.
Boyan Mantchev, philosophe à l'université Sofia, Bulgarie. Et qui sera ce soir, donc 23 octobre, au Grimm pour une autre conférence, autour de la musique aussi, mais cette fois-ci c'est Noise, Music, Philosophie. Et là c'est tout autre chose, ce n'est pas partir de la culture populaire, mais plutôt de voir la manière dont la noise questionne la question de la matérialité. Boyan Mantchev.
Oui, je vais parler, disons, de...
Parler bien proche du micro.
D'une matière un peu, disons, quasi-philosophique, mais aussi assez provocatrice. Donc, elle pose une véritable question devant la philosophie, notamment, qu'est-ce qu'une matière esthétique ? Qu'est-ce que, où passe la limite de l'expérience esthétique dans un monde où, disons, l'expérience sensible est complètement saturée, voire... exploité. Je vais parler d'un phénomène plutôt marginal dans le monde de la culture contemporaine qui est la musique noise. Évidemment, c'est une tautologie parce que noise veut tout simplement dire bruit en anglais. Mais quand même, il s'agit pour moi d'une tendance artistique extrêmement intéressante et aussi symptomatique pour la culture contemporaine qui, disons, essaye d'opérer une sorte de subversion radicale de, disons, des modes de production artistique et culturelle contemporaine.
Alors, si tu veux bien, nous allons commencer par écouter un extrait de cette playlist que tu feras entendre, j'imagine, cette playlist Noise. Alors, tu es venu avec quelques morceaux, par lequel veux-tu qu'on commence ?
Je vais commencer par un morceau qu'on ne qualifierait pas de manière orthodoxe de noise, mais quand même, je pense que nos écouteurs vont se rendre compte des raisons de mon choix. Il s'agit d'un morceau du grand compositeur du XXe siècle, Giorgio Ligeti, Giorgio Ligeti en hongrois, qui est décédé il y a 7 ans, en 2006, et le morceau s'appelle « Continuum ».
Boyan Montchef, on a un enchaînement de compositeurs là.
Oui, on a changé de morceau. C'était juste le début d'un morceau de la compositeur norvégienne Maya Radke. Le morceau s'appelle River Mount Echoes. Et c'est une des, disons, des figures les plus importantes de la nouvelle scène noise. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une proximité assez intéressante entre le premier morceau et le deuxième, mais dans la première fois, même si peut-être on peut se tromper en pensant qu'il s'agissait d'un morceau de musique électronique, en effet c'était un instrument classique, voire pré-classique, parce que c'était un clavecin. C'est un clavecin. Le morceau Continuum de Ligeti est interprété par la fameuse claveciniste polonaise Elisabeth Chojnacka, qui a interprété beaucoup de morceaux des musiques contemporaines cruciales pour l'histoire de la musique du XXe siècle. Et donc, il s'agit d'un morceau où on joue avec une rapidité extrême. Donc, il y a très peu de musiciens qui peuvent l'interpréter, ce qui crée en fait un continuum d'impulsions sonores quasi perceptibles en tant que ton discret. Donc, on perçoit en fait un continuum musical, une sorte de matière musicale en tant que telle. On ne perçoit pas les tons. Et il s'agit donc d'une sorte de production de nuages sonores qui se développent par des phrases qui ne se recoupent pas, sont des trémolos divergents en se déroulant dans tous les sens opposés. Et cela forme un tissu complexe d'événements sonores qui ne pourraient être perçus que dans leur ensemble, ce qui est l'opération de base de la production de continuum. Et donc, j'ai choisi cette pièce de Ligeti parce que j'ai pensé qu'elle était assez exemplaire pour notre expérience contemporaine du sensible, où on vit par nos propres corps, par nos propres sens, on vit une accélération incroyable, jamais vue, de l'expérience sensible. Donc on devient, si vous voulez, des écrans nous-mêmes, nos sens, qui sont sur lesquels une sorte d'information sensible, massive, est projetée de manière permanente. Il s'agit d'images, il s'agit de sons, il s'agit de tous les registres du sensible. Et donc, il y a aussi la question de la durée, de la limite du perceptible et aussi du changement. Hein, comment s'opère le changement. Donc, j'ai pensé que, de point de vue philosophique, c'est une pièce qui pose de nombreux problèmes d'ordre philosophique. Mais ce qui m'intéresserait dans cette approche-là, ce ne serait pas justement une sorte de projection simple de concepts philosophiques sur cette matière esthétique, mais au contraire, d'utiliser ces exemples radicaux pour les penser de l'intérieur. Ça veut dire pour permettre la matière esthétique de forger des concepts philosophiques, des modes de pensée pour justement nous orienter dans les phénomènes esthétiques qui, dans ce cas-là, sont apparemment des phénomènes subversifs qui tendent à substituer à ce champ saturé du sensible une sorte de d'expérience, si vous voulez, éco-technique, hein, qui un peu purifie, si vous voulez, la technique, la technologie musicale, en permettant justement de ce qu'on appelle dans la musique le background noise, le bruit de fond, de monter sur scène et de prendre la place de la musique conventionnelle, de la musique qu'on connaît de l'histoire de la musique, mais aussi de la musique populaire, hein, la musique marchandise, la musique qui est conçue en tant que produit commercial qui circule dans les circuits économiques. Donc, le deuxième morceau de Maya Radke, qui est un morceau créé par la manipulation des outils techniques, nous montre précisément un essai de transgression radicale des circuits la possibilité de faire circuler une œuvre musicale, puisqu'il s'agit d'une œuvre presque imperceptible, presque insaisissable, et en plus qui est assez dévastatrice pour l'écoute à cause des ondes assez aiguës.
Tu es venu avec un autre morceau choisi.
Oui.
On peut l'écouter ?
Oui, le troisième morceau choisi, c'est une, disons déjà, des légendes de la musique noise, le japonais Otomo Yoshihide. Et le morceau s'appelle Consume Mao, qui est très bien lié à mon propos. Donc, Consommer Mao. Ce morceau fait partie de l'album du groupe de Otomo Yoshihide, Ground Zero, intitulé Revolutionary Pekingese Opera.
バカな他人を見たら口の中で勝手にすればと言ってればいいんだ。が、まさか他者との共存を言うと、この言葉を絶対に言うと。バカな他人を見たら口の中で勝手にすればと言ってればいいんだというか、他者がそこにいたら。
そしたらそれがそういう他者との共存だ。他者との共存というものは、大体共存させておいてやってもいいかという多数派の側でささやかれるものと思われる。だから、その場合の共存させておいてもらえるならば、異質な人間解釈者というような少数派だ。Unremarkable.
Boyan, là, on n'est plus tout à fait dans le nuage, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus agressif.
Autrement, il peut faire tout avec ses gadgets techniques. Bon, il s'agit, si vous voulez, d'une musique à deuxième degré. Hein. Il s'agit d'une transformation de la musique où la technique de reproduction musicale, les techniques d'amplification électrique de la musique qui ont été inventées pendant les dernières décennies, devient ou même les instruments de musique. Donc, disons, on assiste à une sorte de procédé esthétique de métaproduction, métaproductif, où justement le disque vinyle, le CD, le mixeur devient d'instruments de musique assez légitimes qui utilisent la musique existante, toute l'histoire de la musique, toute l'anthologie des sons musicaux existants en tant que matière première. Donc il s'agit d'une sorte de métamusique qui travaille sur la musique, donc qui opère des gestes critiques dans la matière musicale existante en faisant des propositions extrêmement fortes, y compris esthétiques mais aussi politiques.
C'est-à-dire que là, tout peut devenir instrument.
Oui.
Tout peut devenir instrument et aussi, on abandonne la mélodie, là.
Il y a quand même, il y avait des phrases musicales mélodiques assez présentes. Il y a d'ailleurs un violoniste australien qui s'appelle John Rose qui participe à cet album. Donc, il y avait un violon qui est l'enregistrement est sans doute manipulé, mais quand même, il y avait un fond musical mélodique qui a été transformé de manière radicale. Donc, n'oubliez pas que c'est l'album Revolutionary Pekinese Opera, l'opéra révolutionnaire du Pékin. Donc, sans doute, il s'agit de la question de la révolution dans le champ esthétique.
Il s'agit aussi d'abandonner... Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'on peut danser sur ce genre de musique?
On peut essayer, hein. Mais là, il faut changer de studio, hein. Il faut aller à la télé, je pense.
Parce que non, mais justement, c'est une question, comment la musique pendant un temps, il y a cette phrase de Deleuze, je crois, Deleuze disait, la musique peut à la fois conduire à la guerre et à la fois nous faire danser. C'est-à-dire que la musique a une capacité de créer une synchronisation, non, des individus, de créer un cœur. Or là, est-ce qu'avec Line Noise, il n'y a pas aussi une explosion de logique du corifié du cœur?
C'est une question, moi je dirais, extrêmement importante parce que, la musique noise nous fait danser en faisant la guerre, mais en faisant la guerre pas au sens politique du terme, mais il s'agit vraiment d'une sorte de guerre pas seulement esthétique, mais d'une guerre dans le champ du sensible. Au sens où c'est une musique qui s'attaque vraiment à l'architectonique, mais aussi à l'appareil sensible de notre propre corps. Donc, elle affecte le corps et dans un sens, elle provoque une réaction immédiate. Et moi, j'ai vu que Marianne a eu peur pour ses oreilles parce que c'est quand même, il y a des morceaux de noise qui sont vraiment dangereux pour l'ouïe. Donc, il y a ce risque-là. Et donc, on s'expose à une sorte d'expérience sensible et radicale qui nous permet justement de nous laver un peu des sons standardisés qu'on connaît, qui devient eux-mêmes un fond permanent, qui devient un bruit. Donc, les sons composés deviennent un bruit et paradoxalement, cela permet au bruit, au noise, de devenir une sorte de musique qu'on perçoit de manière extrêmement, aiguë. Oui. Donc, il y a une écoute radicale.
C'est ce que tu expliquais, donc, effectivement, tout à l'heure, le fait que le noise se retrouve en avant-scène, quoi, d'une certaine manière,
ouais.
En mettant en arrière-plan ouais. Cette musique commerciale.
Ouais.
Il y a un autre morceau, un dernier.
Oui, le dernier morceau est d'une des grandes figures de la scène downtown new-yorkaise qui s'appelle Elliot Sharp, qui a commencé des musiques rock radicales et il a fait plein d'expériments. Mais là, on va entendre un quadeur de Elliot Sharp qui s'appelle Ring Toss. We'll be right back.
Vous écoutez Radio Grenouille 88.8 Noise, Music, Philosophie avec Boyan Montchev. Boyan, à partir de ce que je viens d'entendre, de ce que nous venons d'entendre, j'ai envie de poser un mot qui est celui de virtuosité. On pourrait croire que le noise n'a rien à voir avec la virtuosité, or là il y a de la virtuosité.
Tout à fait, non, il y a une virtuosité du noise qui est justement dans la manipulation non seulement des instruments musicaux classiques, mais aussi, disons, des technologies de reproduction de la musique. Donc il y a des nouveaux niveaux de virtuosité qui sont, comment dire, inattendus et aussi inconnus à l'histoire de la musique. Dans le cas de ce morceau, par exemple, il s'agit d'un quad d'or, au sens classique du terme, Soldier String Quartet, mais la musique dont il t'interprète est une musique qui s'inspire directement à la fois de la philosophie et de la science contemporaine. Donc Elliot Sharp, qui faisait partie des groupes No Wave, Punk à l'époque 80, a décidé de couper radicalement avec cette tradition qui ne lui donnait plus rien, et il a étudié pendant quelques années la théorie du chaos, théorie mathématique, physique. Il a lu Mandelbrot, il a découvert un obscur mathématicien italien, Fibonacci, qui a créé des échelles extrêmement intéressantes, et donc il compose à partir de ces échelles-là. Ce sont donc des structures musicales qui sont complètement inconventionnelles. Donc il y a une virtuosité de la structure musicale qui n'est pas la structure musicale traditionnelle, la structure de la musique classique. Et donc ce qui me paraissait extrêmement intéressant à travers ce morceau, c'est la question que je vais me poser ce soir lors de ma conférence, c'est la question non seulement de la nouvelle forme musicale, de la nouvelle forme esthétique, mais aussi de la nouvelle force esthétique, hein, de la nouvelle force, la question de la force et la question de l'énergie, si vous voulez. Donc, moi, je pense que ce morceau nous montre, dans un sens, exemplifiait la transition de la matière musicale, de la matière esthétique en pure énergie rythmique. Donc, il y avait la question de la transformation de la structure harmonique ou mélodique en pulsion rythmique. Et donc, c'est la question de la force affective, sensible, esthétique, qui me paraît cruciale pour, non seulement pour la philosophie contemporaine, mais pour notre expérience, disons, ordinaire, populaire, si vous voulez, du sensible.
Est-ce qu'on peut aussi, par rapport à ce que tu as dit depuis le début de l'émission, c'est-à-dire le noise qui vient, cette musique qui vient à un moment donné mettre en crise ou en critique la musique populaire, le noise qui vient mettre en crise et en critique la musique classique, mm-hmm. Est-ce que le noise est toujours en dialectique avec donc une extériorité, ou est-ce que le noise peut se tenir tout seul?
Bah, il faut surtout faire attention de ne pas, disons, d'éviter le risque de substantialiser le noise. Parce qu'en fait, le noise, c'est déjà un énorme champ de production musicale où il y a plusieurs tendances. Donc, sous le titre de noise, maintenant, on regroupe plusieurs tendances, disons, le noise japonais qui est surtout... le type de noise où on opère avec les outils techniques de reproduction musicale. Il y a le noise, disons, nordique, où on joue vraiment des instruments électriques de manière assez radicale. Il y a le noise qui vient plutôt des traditions de la musique contemporaine. Il y a aussi le industrial music des années 70-80. Et là, il y avait justement dans le champ de industrial music, il y avait une tendance très forte de créer une sorte de anti-musique qui était évidemment une sorte de projet surdéterminé, parce que on voulait justement s'opposer à la musique en total. Et donc, moi, je pense que c'était une expérience impossible, tandis que ce que je viens de présenter ici, c'est plutôt une sorte de travail musical qui, justement, s'empare de toute l'histoire de la musique en mettant de côté, ou bien au même niveau, la musique ancienne, la musique classique, la musique contemporaine, la musique populaire, en les mixant, en les retravaillant en tant que matière musicale pour l'invention des musiques inimaginables et inouïes.
Marianne Chaillon, vous écoutez le noise ?
Non, pas du tout, je viens de découvrir.
C'est vrai que vous êtes plutôt du côté des chansons populaires ?
Bah, si je suis de ce côté, disons que c'est à ça que je m'intéresserai, oui, demain.
Demain, effectivement, dans le cadre de cette intervention qui s'intitule « La playlist des philosophes », cette fois-ci ce sera au CIPM, donc demain jeudi 24 octobre, c'est à 18h. Boyan Moinchef lui interviendra donc ce soir, 22 octobre, c'est à 20h, c'est au Grimm. Donc playlist des philosophes, vous aussi, vous êtes donc venu avec quelques morceaux musicaux. Donc là on va complètement se déplacer vers toute autre chose. Et je vous propose qu'on commence par écouter, je voulais choisir...
Formidable.
Formidable. Allons-y.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Formidable, Marianne Chaillon, c'est formidable. Pourquoi ce choix formidable ?
Alors,
à si ce n'est de nous dire que nous sommes formidables, qu'ils sont formidables.
Et non, justement, c'est l'inverse. Peut-être que vous n'avez pas prêté attention au changement de consonne. Le formidable devient forminable.
Ah.
Et c'est là toute la subtilité de la chanson. Alors, justement, dans ce que je vais faire demain, je vais pas faire ce que Boyan évoquait tout à l'heure et que j'ai pu faire l'an dernier sur Harry Potter, c'est-à-dire à la fois prendre l'objet de culture pop en trouvant en lui des échos d'une philosophie dont il serait le support, mais en le prenant lui-même comme support d'une pensée immanente. J'aurais pu aussi bien faire ça, mais c'est pas ce que je vais faire demain. Demain, je vais me contenter du premier aspect, c'est-à-dire de prendre les chansons et de me demander dans quelle mesure elles offrent des puissances de médiation vers les textes, vers des textes qui seraient restés obscurs pour la plupart des gens, par exemple les lycéens que j'ai devant moi.
Alors par exemple, là, on remonterait vers quel texte ?
Mais moi, ce texte de Schopenhauer qui marche très fort en ce moment, il me fait penser à Schopenhauer.
Et quel texte de Schopenhauer ?
Alors, il me fait penser à cette thématique que vous connaissez bien, j'imagine, selon laquelle, pour Schopenhauer, la vie est un pendule qui oscille de la souffrance à l'ennui. Et donc, cette alternance entre le formidable et le formidable dans le texte de Stromae me paraît relever de la même distinction. Chez Stromae, on se rend compte qu'il faut faire le deuil d'une certaine conception du bonheur, conçue comme un état durable, plein, et que tout formidable dégénère nécessairement en formidable. C'est ça le propos de sa chanson.
Alors, et inversement, tout formidable peut dégénérer en formidable ?
Non, hélas, le formidable connaît des moments de suspension, c'est ça qu'il appelle le formidable, mais qui ne sont que des moments transitoires d'un formidable à l'autre. En vérité, il n'y a pas de formidable, il n'y a que des passages d'un formidable à l'autre. Alors vous pourriez me dire qu'il y a certaines expériences qui, dans la vie, font que non, elle est formidable, elle est très formidable, la vie, par exemple la passion amoureuse. Et justement, dans le texte de Stromae, il met en scène un personnage qui vient de faire l'épreuve d'une rupture amoureuse et qui entend déniaiser ceux qui pourraient penser que l'amour offre une raison de vivre, puisque Stromae nous dit... que nécessairement l'amour dégénère et qu'il n'y a pas d'amour heureux.
Il est triste, ce Schopenhauer.
Voilà, il est triste ou il est réaliste, je ne sais pas.
Une autre musique ?
Autre musique ?
Oui.
On reste chez le même chanteur pour voir la transition.
Allez, donc, restons chez...
Donc c'est son premier tube, hein, il s'appelle Alors on danse.
Alors on danse.
Alors on danse.
Alors, alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on dort. Alors on danse. 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 Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la.
Et dans les studios vient de venir à nous Francis Métivier, pendant que s'installe, on danse avec Pascal, Marianne Chaillant.
Oui, alors on était resté sur un constat assez, assez triste avec Schopenhauer, et il se trouve que Stromae nous avait déjà proposé une réponse. Comment fait-on quand la vie est si triste, qu'est-ce qu'on doit faire? Et alors, il nous propose une réponse qui est toute pascalienne. Pascal, vous le savez sans doute, nous dit que c'est pas très joyeux non plus, puisqu'il y a une pensée de lui qui nous dit que le dernier acte est sanglant, quelque belle que soit la comédie en tout le reste, on jette un peu de terre sur la tête et on voit là pour jamais. Donc c'est assez tragique. La vie finit par la mort, c'est terrible. Et donc, que propose Pascal? Eh bien, c'est pas ce qu'il propose, mais il nous dit c'est ce que nous faisons, nous les hommes, pour ne pas penser à la mort, on se divertit. Se divertir, ça ne veut pas dire rentrer dans des entreprises forcément ludiques, ça veut dire détourner le regard. Tout est divertissement, alors y compris des activités extrêmement sérieuses, comme, je sais pas, se questionner sur la musique noise. Et alors, chez Stromae, par contre, le divertissement, bon, il semble le restreindre à sa dimension ludique, mais je crois que la danse qu'évoque Stromae n'est pas du tout frivole, c'est une sorte de jeu tragique. La danse chez Stromae, c'est donc ce divertissement pascalien pour ne pas penser à la mort qui vient.
Pascal avait donc raison, nous ne cessons de nous divertir.
Hélas.
Hélas.
Eh oui, il serait plus sage de ne pas éviter la pensée de la mort.
Oui, c'est vrai. Mais si tout est divertissement, y compris les choses sérieuses, alors il n'y a pas d'issue.
Il y en aurait, probablement chez Pascal, par la conversion et la méditation de ce qui nous manque dans cette vie, mais ce n'est pas du tout le propos de Stromae, pour le coup.
Heidegger.
Oui, Heidegger, alors là j'ai retenu deux textes, celui d'Alain Souchon et celui de Damien Saez qui se complètent bien l'un l'autre.
Alors on écoute Alain Souchon ?
D'abord, oui.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir.
Marine Chaillon, qu'est-ce qu'on nous fait croire? On nous fait croire que Heidegger se cache derrière Alain Souchon?
C'est possible que ça fasse partie aussi de cette dictature du on-pop philosophique, pour le coup. Alors, ce que je repère dans cette chanson, pourquoi elle me fait penser au philosophe d'être étant, c'est que, vous l'aurez remarqué, cette chanson répète le pronom « on » et substitue ce pronom « on » au « je », qui pourrait être l'instance décisionnelle, qui devrait être l'instance décisionnelle. Et Souchon nous dit « c'est pas « je » qui pense, c'est « on ». Et ça, c'est une thématique qu'on trouve chez Heidegger, où il nous dit que, notamment au paragraphe 27 d'être étant, que le Dasein est toujours déchu dans ce qu'il appelle la dictature du « on », ce qui veut dire tout simplement que là où vous croyez être singulier, avoir des pensées qui vous sont propres, des jugements esthétiques qui vous sont propres, etc., en vérité, vous portez des jugements qui sont les jugements du « on », parce qu'il est de bon ton de penser comme ça, il est de bon ton de juger comme ça, etc. C'est pas « je » qui pense, c'est « on ». Voilà.
Cette technique que vous avez, ou cette proposition, c'est quelque chose que vous faites avec vos élèves?
C'est quelque chose que je fais, oui. Quand je sens que l'attention faiblit, quand je sens qu'un problème philosophique que je peux trouver dans un texte est trop abstrait, alors je peux me servir effectivement d'objets de la culture pop comme tremplin, comme médiation, en effet.
Par exemple, avec Harry Potter, qu'est-ce qui vous a intéressé ?
Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans Harry Potter, pour le coup. Tenez, par exemple...
Harry Potter à l'école platonicienne.
Oui, à l'école platonicienne. Alors,
l'école stoïcienne.
Tiens, voilà, récemment, donc, je parlais avec mes élèves de... Je faisais un cours sur l'État et on a parlé du mythe de Gigès chez Platon. Et ça a été l'occasion pour moi d'évoquer la cape d'invisibilité chez Harry, qui pose la même problématique que Platon dans La République, et d'évoquer l'anneau de Tolkien, par exemple. Et là, ça leur parle énormément.
Qu'est-ce que c'est le mythe de Gigès dans Platon ?
Alors Platon nous raconte une histoire que je vais abréger. Un berger qui s'appelle Gigès trouve après un orage très violent un anneau au doigt d'un géant. Il s'empare de cet anneau et il se rend compte que lorsqu'il tourne l'anneau, quand il fait jouer l'anneau autour de son doigt, il devient invisible. Alors à votre avis, qu'est-ce que
c'est dans Platon ?
Ça, c'est dans Platon, ouais. Et alors que va faire Gigès ?
Je sais pas, il va tourner le...
Oui, mais alors qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez invisible ? Vous feriez des choses que moralement interdites ou pas ? Est-ce qu'en vérité, on est moral ? Enfin, est-ce qu'on agit, en apparence, de manière morale, pour des motifs véritablement moraux ? Ou est-ce qu'en vérité, nous agissons de façon prétendument morale, mais pour des raisons totalement autres, c'est-à-dire, par exemple, par peur de nous faire attraper ? Et alors, dans la saga de J.K. Rowling, j'ai trouvé qu'elle avait donné une sorte de substitut. Elle n'a pas donné un anneau, elle a donné une cape d'invisibilité à son héros.
Alors, et les questions philosophiques, comme vous venez de le poser, sont les mêmes dans Harry Potter.
Bah, il se trouve, en l'occurrence, que ce qui est mis à l'épreuve à travers cet objet, à travers le fait que Harry possède la cape d'invisibilité, c'est la question de savoir si, en levant l'imputabilité, on atomise la morale. Voilà. Et alors ça, on trouve ça chez Tolkien, bien sûr. Est-ce que vous auriez résisté à l'anneau de pouvoir ? Alors Tolkien, lui, se range du côté d'un personnage de Platon qui s'appelle Glaucon, qui pense que tout homme possédant l'anneau commettrait le mal, assurément. Et J.K. Rowling se range du côté de Socrate, elle, en pensant que vous pourriez avoir l'anneau et continuer à rester quelqu'un de très moral.
Vous écoutez Radio Grenouille 88.8, il est 14h10, émission spéciale playlist des philosophes, et je disais, vient de nous rejoindre Francis Métivier. Bonjour Francis Métivier.
Bonjour.
Francis Métivier, vous êtes rendu plus ou moins célèbre avec un livre qui s'intitule Rock and Philosophy.
Rock and Philo.
Rock and Philo, exactement. Et là, je crois que dans le cadre de la semaine de la pop philosophie, vous allez donner une conférence au trolleybus qui s'appelle Philo Clubbing et qui s'intitule Je pense donc je jouis.
C'est ça.
Avec un sous-titre d'ailleurs qui pourrait être Je crois, je baise donc je suis.
C'est ça.
Bon là, la philo, on la malmène, hein, très fortement, non ?
Non, on la malmène pas, on la retrouve, en quelque sorte. On la plie un peu, effectivement, aux exigences du quotidien et des pratiques populaires, enfin celles de monsieur et madame tout le monde, en l'occurrence. Pascal disait, se moquer de la philosophie, c'est philosopher. Mais même cette phrase est leur sujet, parce que, bon, effectivement, essayer de comprendre les grands philosophes par des morceaux rock ou par des positions qui renvoient aux pratiques sexuelles, C'est même pas se moquer de la philosophie, c'est rapprocher effectivement un mode théorique et un mode pratique, voir comment les deux concordent et constater que oui, l'un explique l'autre et réciproquement.
Mais est-ce que la philosophie c'est juste une affaire, c'est une question que je vous pose à tous les trois, hein. Est-ce que la philosophie c'est juste une affaire de compréhension, c'est-à-dire comprendre la philosophie, ou est-ce que la philosophie engage plus que la philosophie ?
Non,
et donc ce ne serait pas qu'une affaire de compréhension.
Non, c'est plus comprendre, ça veut dire comprendre les autres. Après, il faut savoir les expliquer pour qu'il y ait une transmission de ce qu'on a compris. Et puis la philosophie c'est aussi une création, pas artistique, mais... Qu'est-ce qu'on demande ? Moi, je suis professeur de philosophie également. Qu'est-ce qu'on demande aux élèves ? On leur demande surtout d'apprendre à construire personnellement un raisonnement. Non pas à construire un raisonnement personnel, on leur demande pas de devenir philosophe professionnel, mais d'avoir cette aptitude à raisonner à titre personnel par des outils qui sont des outils assez traditionnels. Mais ça va au-delà de la compréhension. Il faut comprendre, il faut expliquer, il faut produire sa propre pensée. Ouais.
Moyenne, c'est une question que... Je pourrais aussi te poser, la philosophie est juste une affaire à comprendre la philosophie, ou il y a quelque chose qui va au-delà de la question philosophique finalement avec la philosophie ?
Il y a l'histoire de la philosophie, il y a la pratique de la philosophie. Bah, certainement, l'histoire de la philosophie se pose comme afin d'étudier, de comprendre la philosophie, et elle est très légitime et très importante. Et moi, bon, si on discute de...
Proche du micro.
Disons, des enjeux de la pratique philosophique, moi, je verrais plutôt de ce côté-là quelque chose comme une sorte d'expérimentation de la pensée, d'un désir de la pensée de ne pas s'abriter, de s'exposer au dehors, même radical. Et bon, c'est sans héroïser la philosophie, je pense que quand même... c'était dès le départ une pratique qui essayait de s'opposer à l'ordinaire et aussi à la tendance, disons, de l'être humain de s'effondrer dans la bêtise.
Marianne Chaillot, tu disais justement tout à l'heure que là où il paraît qu'il y a de la bêtise, si on veut bien ne pas se contenter de cette première bêtise, on peut remonter à quelque chose qui n'est pas que de la bêtise.
Parfois, oui, notamment donc dans ses chansons ou dans cet ouvrage qui a eu un succès mondial, mais dont on considère que c'est une littérature mineure, creuse, qui s'adresse à des enfants. Oui, ça me plaît de déceler ce qui est culturel.
Francis Métivier, tu es venu avec une petite playlist.
Oui.
Et tu as un premier morceau qu'on pourrait écouter.
J'ai un premier morceau de Hendrix, Are You Experienced?
On l'écoute.
Ok.
If you can just get your mind together, then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well,
Hendrix sur les ondes de Radio Grenouille. Francis Métivier, pourquoi ce choix?
Parce que c'est l'allégorie de la caverne. C'est le moment où on sort de la caverne. Je crois qu'on sort de la caverne à reculons, enfin en marche arrière en quelque sorte, parce qu'on ne veut pas être ébloui par le soleil. Et il y a beaucoup musicalement d'effets reverse, cymbales à l'envers, effets guitare à l'envers. Enfin, faudrait expliquer techniquement les choses et les montrer. Mais les effets reverse, c'est-à-dire qu'on met l'avant après et l'après avant. Et il y a toujours cette tendance à revenir au point initial. Et puis, il faut se pencher aussi sur les textes où « Are you experienced ?» Est-ce que tu es initié ? Est-ce que tu en es sorti ? Et puis, cette histoire de regarder le soleil, de l'idée, faut revoir les paroles de la chanson, hein, l'idée qu'effectivement, on est toujours prêt à revenir dans son petit monde, dans le petit confort de son ignorance naturelle, et qu'on n'est pas prêt forcément à sortir de la caverne, parce que c'est très douloureux, quoi. Donc et puis, c'est un morceau, à mon avis, qui est assez emblématique de ce que peut être la pop philosophie.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire Hendrix, donc un créateur qui est diffusé très largement au niveau mondial, voire interplanétaire. Enfin bon, qui répond à ce critère de la pop philosophie, c'est-à-dire un objet, une œuvre, une expérience qui fait l'objet d'une diffusion tout public et qui, pour autant, sans avoir une forme strictement philosophique, pose un questionnement philosophique ici sur l'expérience, sur l'initiation. On définit souvent avec Deleuze la pop philosophie comme l'expérience qu'on a à partir d'un objet ou d'une chose, enfin, voire d'un personnage. Et là, on est complètement dans cette thématique de l'expérience. Enfin, cette chanson, qu'est-ce qu'on en fait ? Cette chanson, est-ce qu'elle nous aide aussi à sortir de la caverne ?
On écoute un nouveau morceau ?
Ouais, j'ai mis One de U2 aussi.
Allons-y alors.
Is it getting better? Or do you feel
the same. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leave you, baby.
Mais on est loin de la musique du clubbing, là, Francis Métivier.
Oui et non. Là, on est à cheval sur le rock et le sexe, en fait. On est à cheval sur rock and philo et sexe et philo.
Rock sexe and philo, c'est un autre livre, hein, que voilà, vous avez publié dernièrement.
Voilà. Enfin, l'année dernière. D'un point de vue philosophique, moi, cette chanson elle a toujours évoqué le mythe de l'androgyne qu'on trouve dans le banquet de Platon, One. Bon, il faudrait du temps pour expliquer cela. Mais bon, ça renvoie à ces formules courantes, ne faire qu'un, fusionner avec l'autre, chercher, trouver sa moitié. La chanson de U2, c'est une chanson sur la difficulté de ne faire qu'un et de réaliser ce désir de reconstitution de l'androgyne primordiale. C'est sexuel aussi, puisque ne faire qu'un, c'est une formule théorique, mais qui prend son sens pratique à travers le sexe. Et ce que je vais expliquer demain soir, par exemple, illustration à l'appui, enfin dessin de Nicolas Poupon à l'appui, c'est que One, ça pourrait symboliser cette position sexuelle. Alors on est à la radio, ça va pas être pratique, mais cette position qu'on appelle parfois l'œuf, que moi j'appelle le carrosse, enfin, où vraiment il y a, pas simplement au niveau des organes sexuels, mais des deux corps en entier, une fusion sphérique qui ressemble véritablement à, ou qui symbolise véritablement cette reconstitution de l'androgyne primordial. Mais là, encore une fois, sans dessin, c'est peut-être... Enfin bon, je laisse les auditeurs faire travailler leur imagination.
C'est étonnant que vous... Parce que bon, c'est pas cette idée que j'avais de l'androgyne comme unité, mais plutôt de l'androgyne, si ce n'est une unité, mais en tout cas une unité quand même très multiple.
Oui. Non, il y a différentes combinaisons, homme-femme, femme-femme, homme-homme. Moi, mon truc, c'est homme-femme. Donc, et ça fait quand même partie des combinaisons dont parle Aristophane dans le banquet.
Boyan Montchef, tout à l'heure, Francis Métivier parlait de ce qu'était pour lui la pop philosophie. La pop philosophie, pour toi, Boyan, ça t'évoque quoi exactement? Ou comment tu pourrais la définir, s'il fallait la définir pour toi?
Et voilà, je pense qu'il faut prendre en sérieux la question du populaire. Ce que proposait Deleuze. Je ne pense pas que la pop philosophie est une philosophie de quelque chose. C'est plutôt peut-être une manière de philosopher. Il s'agit peut-être d'une modalité de la philosophie qui peut-être n'a pas été la dominante. Hein, disons qu'il y a eu des philosophes très aristocratiques, très... élitaires, mais il y a eu des philosophes aussi qui étaient proches du peuple, qui étaient même inférieurs, pour ainsi dire, au peuple, comme les philosophes cyniques, par exemple. Donc, il y a des manières, des modes de faire la philosophie, et pour moi, l'exigence du populaire, c'est quand même non pas tellement penser des modes, des productions culturelles typiques pour le capitalisme tardif, mais plutôt de repenser qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce que le populaire en tant que, disons, capacité de production immanente stratégique d'un peuple, et de là prendre cette exigence très au sérieux. On parle aussi de manière assez péjorative, je ne sais pas, je ne suis pas sûr si ça se passe en France, mais on dit souvent des philosophes contemporains qui sont des pop philosophes, et c'est quasiment très négatif, et je peux seulement espérer que, bien sûr dans les milieux académiques, je ne peux qu'espérer que justement l'idée de pop philosophie qui se joue ici pourrait s'opposer à ce type de qualification académique ou quasi-académique.
Je vous propose qu'on continue d'écouter quelques morceaux choisis par Francis Métivier. Un dernier morceau peut-être?
Oui, Gainsbourg, La Décadence.
Tourne-toi.
lentement.
Francis Métivier, La Décadence. Bah, nous emmène où, là?
À la fois chez Platon et chez Rousseau. Chez Platon, parce que on a cette thématique de ce que certains commentateurs de Platon ont pu appeler la dialectique ascensionnelle. Si on part de la vision d'un beau corps, d'un vrai corps beau en particulier, et étape par étape, de façon dialectique, on arrive à une contemplation faite par l'âme du beau en soi, même d'autres choses après. Et là, la chanson est bon, je ne sais pas si Gainsbourg a lu Platon, mais la chanson est construite en trois temps, comme ça. On part d'une position clairement évoquée, dont je parlerai là aussi demain, la levrette, une position sexuelle populaire. Et puis, il faut réécouter la chanson jusqu'au bout. On en arrive à une sorte de spiritualité, de l'union entre les deux personnes, qui part de quelque chose de physique, de sexuel, mais qui en arrive à une unité, à une union spirituelle, voire à une unité avec d'autres choses plus métaphysiques, quoi. C'est une sorte d'envolée. La chanson de U2 est construite de la même manière. On en arrive à l'idée d'une fusion qui soit spirituelle.
C'était La Dame Noire Dancing, Trolleybus Night Club. C'est jeudi 24 octobre à 22h. Philoclobine, je pense. Donc, je jouis Francis Métivier, Marianne Chaillon, playlist et philosophe. C'est à 18h, jeudi 24 octobre, au CIPM. Et Boyan Monchev, Noise, Musique, Philosophie. C'est 23 octobre, 20h. Et c'est au Grimm. Il nous reste 4 minutes à peine. Et l'occasion, sans doute, avec Boyan, d'évoquer un groupe. De quelqu'un que nous recevons régulièrement ici sur les ondes de Radio Grenouille, qui est Ferdinand Richard, et je crois qu'il avait un groupe qui s'intitulait Le Cheval Blanc, et qui était un groupe, Boyan, que tu me rappelais hier. Il était très important, ce groupe, dans la culture musicale.
Mais attends, c'est pas Le Cheval Blanc, c'est Être en Foule et Loup Blanc.
Ah, c'est Loup Blanc, c'est ça. Tu peux nous parler un peu de ce groupe pour toi, pourquoi il est important?
Moi, je suis toujours très étonné que c'est pas un groupe qui est pas très connu en France, parce que pour moi, c'était un groupe légendaire que j'ai écouté à Sofia les années 80. Et donc, c'était un des groupes, ça n'a pas directement quelque chose à voir avec la musique noise, à moins que ce soit justement une noise, disons, sémantique, parce que c'est un groupe composé par Ferdinand Richard et Guigou Chenevier, qui est un groupe de rock expérimental, mais qui aussi écrivait des textes vraiment absurdes, extrêmement provocateurs. Et du coup, je pense que le groupe n'existe plus depuis 20 ans, mais Ferdinand Richard est resté actif. Il organise le festival Mimi à Marseille, que j'ai visité plusieurs fois, aux îles de Frioul. Et puis il y avait des nouveaux groupes de Ferdinand Richard, dont j'ai pensé à un, hélas, trop tard pour le faire écouter. Mais c'est un groupe assez symptomatique pour nous tous. C'est un groupe qui s'appelle Ferdinand et les philosophes.
Il a monté un groupe qui,
Ferdinand et les philosophes. Donc, la prochaine émission, autour de la playlist de philosophes, il faut absolument inviter votre voisin Ferdinand Richard pour vous raconter l'histoire de Ferdinand et les philosophes.
Eh bien voilà, quand nous recevrons Ferdinand Richard sur les ondes de Radio Grenouille, nous lui demanderons de venir avec un extrait de ce groupe Ferdinand et les philosophes. Merci à vous, merci Boyan Manchev, merci Francis Métivier, merci Marianne Chaillon d'avoir participé à cette émission, la playlist des philosophes.
La semaine de la pop philosophie, saison 5, du 21 au 26 octobre à Marseille. 13h30, rendez-vous en direct sur les 3-8, la playlist des philosophes. Des philosophes. Tendez l'oreille sur Radio Grenouille.
Chouette. Un direct. Le batracien sort de sa mare et vous retrouve en ville. Radio Grenouille, en direct. En direct. 88.8 FM. Nous écoutez à volonté radiogrenouille.com.